RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, c'est votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr. La Dream Team du jour est inédite. Fred Weiss, Sacha Alix et Alexandre Herbinet. Bonjour messieurs.
Salut, salut.
Bonjour, bonjour.
On salue Stephen Brun qui écoutera ce podcast depuis son lit puisqu'il est souffrant aujourd'hui. Alors il est souffrant alors que le thème est fantastique. Les Golden State Warriors, quand même une des plus belles franchises de cette ligue, quand même, Fred, non ?
Oui, mais c'est surtout le thème est fantastique parce qu'on va parler de Draymond Green.
Les débats sont incroyables, attention. Hein.
Avec Stephen, ça aurait pu être intéressant.
Les débats sont incroyables aujourd'hui, attention. Hein. Les Warriors, cette fois-ci, est-ce que c'est la fin ? On a annoncé leur fin, je pense, déjà 5 fois depuis 5 ans. Hein.
Oui,
mais cette fois-ci, est-ce que c'est vraiment la fin ? Il ne faudrait pas qu'ils soient encore en finale cette saison. Hein.
C'est le principe des dynasties. Tu mets plus longtemps à les terminer que les équipes normales.
Un débat qui va rendre fou les fans de Draymond Green. Draymond Green est-il une fraude ? On met les pieds dans le plat aujourd'hui dans Basket Time sur RMC. Et puis, puisqu'on parle des Warriors, on parle de Klay Thompson, on parle de Steph Curry. Dans la partie historique, vous allez me dire qui est le meilleur pyromane de l'histoire. Le mec capable de prendre feu et de gagner un match à lui seul sur un coup de chaud. Ça, c'est dans la partie historique. Le quiz sera consacré aux Warriors. Ouais, je vous donne le thème tout de suite parce qu'il n'y a aucune dinguerie.
Il n'y a pas d'animaux.
Okay.
C'est-à-dire que pour la première fois,
il n'y a pas de dinguerie dans le thème. Il peut y avoir des dingueries dans les questions.
Est-ce qu'il y aura une boucle encore ?
Rassure-moi. C'est pas une boucle aujourd'hui.
C'est pas une boucle.
Ça tourne autour des Warriors aujourd'hui. Vous êtes prêts, messieurs ? C'est parti pour un podcast spécial Golden State Warriors.
Curry out transition, scoops it in beautifully, plus the foul.
Many years when you worry about his threes and he kills you with twos, he does it every night.
To Curry, better look to Wiggins, who's driving to Chris Paul, open Klay Thompson three, yes sir, and that is Warrior basketball. Thompson on the move. Curry, gorgeous cut in the lane.
Why does Steph Curry always find himself wide open?
Wow. Shot clock off. No timeout. Klay Thompson at three. Klay for the win.
Alors, ça fait plusieurs années donc qu'on se demande si les Warriors vieillissants arrivent au bout de l'histoire. Eh bien, on se repose la question, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, évidemment, ce classement indigne. Ils sont 11e à l'Ouest avec un bilan négatif à moins de 50% de victoire. Il y a eu aussi ce 0 sur 8 de Steph Curry à 3 points contre Portland, qui a choqué évidemment tous les suiveurs de Steph Curry. Curry, 35 ans. Draymond Green, 33 ans, qui prend en plus un minimum de 3 semaines de suspension. Klay Thompson, 33 ans. Est-ce que c'est une équipe qui arrive au bout, Sacha ? Leur saison, ça tourne pas rond hein, pour le moment en tout cas. Hein.
Oui, ça tourne pas rond pour le moment, puisque pour donner un petit peu la température aujourd'hui, on est en train de célébrer deux victoires de suite hein, du côté des Warriors. Là, c'est la situation actuelle, et c'est le côté positif de ce début de saison, puisqu'avant ça, c'est assez cataclysmique. Il y a eu notamment cette série de 6 défaites de suite. C'est compliqué. Effectivement, on reste sur des rotations qu'on connaît bien du côté des Warriors, c'est-à-dire qu'on responsabilise énormément Klay Thompson, Draymond Green, quand il peut jouer, Wiggins, etc. Mais là, il y a une bascule qui est en train d'opérer. Klay Thompson et Andrew Wiggins sont des débuts de saison qui sont cataclysmiques en termes individuels. C'est leur pire pourcentage de réussite et dans le tir globalement et à 3 points. C'est ce qui fait que là, aujourd'hui, on s'est posé des questions. On a mis du temps à réagir du côté de Steve Kerr, mais on va responsabiliser les jeunes et c'est ce qui marche. Les statistiques qui sont probantes parler de ce début de saison qui est difficile, c'est que c'est une des équipes les plus maladroites de la Ligue. On parle des Warriors, oui, je vous rassure, ils sont dans la maladresse absolue.
C'est fou. 25e au tir.
C'est ça, et c'est une des pires équipes de la NBA en transition. C'est-à-dire que c'est l'ADN du jeu des Warriors qui les a emmenés très très loin et qui les a fait prendre des titres. Et là, ils sont vraiment très mauvais en transition. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus un joueur qui est capable de dynamiter un petit peu l'attaque comme l'était Jordan Poole, même si parfois il faisait un peu n'importe quoi. Et avec des joueurs qui sont vieillissants et un Chris Paul qui parfois prend les rênes pour l'équipe qui sort du banc, forcément le jeu est plus lent et on a du mal à trouver les tirs et on défend aussi très très mal du côté des Warriors. On fait beaucoup trop de fautes.
Alors, est-ce que cette fois c'est la fin, Fred ? Fred Weiss.
C'est difficile à dire, hein. Effectivement, c'est une dynastie. On est habitué à ce qu'ils renaissent de leurs cendres à chaque fois. Alors concrètement, quand on voit ce qui se passe, évidemment, on a l'impression que vraiment, il y a des joueurs qui sont vraiment dans le dur. Wiggins, même s'il vient de sortir d'un bon match là. Klay, qui est aussi en difficulté. Mais on a enfin l'impression que Steve Kerr se dit effectivement j'en ai marre de faire confiance à ce 5, on va leur mettre la pression, on va les challenger, et on voit que sur le banc il y a des joueurs qui peuvent être hyper intéressants. Donc je parle de Kuminga par exemple, de Moody bien sûr. Je trouve que Saric a fait une saison assez fantastique concrètement, mais en même temps on connaît Saric. Et Chris Paul, alors oui il ralentit un petit peu le jeu, mais je trouve qu'il amène le ballon où il faut. Je trouve que c'est pas si mal que ça, et j'ai regardé un petit peu les 10 derniers matchs. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 5 victoires, 5 défaites, mais sur les 5 défaites, ils ont une défaite d'un point contre les Kings, une défaite d'un point contre les Clippers, une défaite de 2 points contre OKC, une défaite de 3 points contre les Suns.
Donc concrètement, des bonnes équipes, on ne peut pas supposer être des bonnes équipes.
Le problème, par exemple, c'est que ta défaite face aux Clippers, t'as 20 points d'avance.
Oui, non, mais bien sûr.
Et que tu perds ces points d'avance, ce qui n'était pas l'ADN des Warriors
ça,
à l'époque.
Ça clairement. Mmh. Mais ce que je veux dire sur le résultat final, finalement, tu te dis, tu ne perds pas de beaucoup, tu es quand même dans le match. Et effectivement, dans ce cas de figure, tu es même devant. Ben, je me dis que malgré tous les problèmes, malgré tout ce qui peut se passer, ben, tu as des mecs comme Podziemski aussi, le rookie qui est plutôt très intéressant, plutôt un bon pick de draft. On se dit que quand Clay va revenir un peu correctement, quand Wiggins va se remettre à la tête à l'endroit, parce que clairement, son début de saison, il est cata. Bah, cette équipe, elle va quand même poser des problèmes.
Alors, pas les enterrer, quoi.
Moi, je ne veux pas les enterrer. Alors oui, il n'y a pas vraiment de protecteur de cercle, mais c'est un peu habituel quand même pour cette équipe qui compensait ailleurs avant et qui a peut-être un peu plus de mal à le compenser défensivement. Mais c'est vrai que dans l'absolu, moi, je trouve que cette équipe n'est pas complètement morte et elle n'est pas si loin à chaque fois sur les 10 derniers matchs.
Ils ont tellement montré, en fait, avec les années. Le dernier titre, c'est il y a 18 mois, ce n'est pas il y a si longtemps. Quand tu les vois jouer, tu as l'impression que c'est il y a beaucoup plus longtemps. Mais c'est une équipe qui est capable, en effet, comme dit Fred, s'ils sont tous à leur niveau, ils vont poser des problèmes à plein d'équipes.
Mais là, il n'y a pas grand monde à son niveau.
Wiggins, pour moi, c'est celui qui stigmatise le plus le problème.
On a eu l'impression qu'il n'est pas prêt physiquement.
Il n'est pas prêt dans sa tête. Et on parlait d'un mec capable de mettre de l'énergie. Hein. Moi, je le compare, alors, pas tout à fait, mais dans l'esprit à Aaron Gordon. C'est-à-dire qu'il était capable d'aller en transition, capable de poster, capable d'aller prendre des rebonds. Un peu cette menace intérieure que tu n'as pas parce que tu n'as pas des intérieurs très puissants. Et là, bah quand tu l'as pas, c'est plus difficile de prendre des shoots parce que justement, tu peux plus rester écarté, tu as moins besoin d'aider à l'intérieur. Et je pense que dès qu'on aura réglé le problème Wiggins, on va step up.
Il y avait des soucis personnels aussi.
Ouais, donc personnel avec son papa l'année dernière.
Qui est revenu pour les playoffs et il fait les playoffs plutôt corrects d'ailleurs.
Mais c'est physiquement qu'il n'était pas prêt.
Là, physiquement, ça va pas.
Il n'était pas prêt et il fait sa pire moyenne en carrière. Hein, et moi, je trouvais, pour mettre un peu de nuance, ce que disait Fred aussi, justement, que Steve Kerr, il n'ose pas assez des fois. Il y a des fois, il te ressort Moses Moody alors qu'il fait des bonnes séquences pour remettre Wiggins, t'as l'impression qu'il met quand même ses piliers, ses totems, ce qui est normal, vu les résultats qu'ils ont eu. Ouais, c'est normal.
Je pense que les challenger, c'est normal, mais en même temps, les garder en confiance un peu, c'est le minimum.
Exactement. Il y a une balance à faire entre les deux, mais le credo des Warriors pendant les années, c'était strength in numbers. La force, elle était dans le nombre, dans avoir plusieurs joueurs. Aujourd'hui, t'as que Curry qui assume. Enfin, sur ce début de saison, lui, il fait sa saison, il est à 28 points par match. Alors, il a son 0 sur 8 sur un match, mais ça peut arriver. Le problème, c'est que là, Curry va bien et que les Warriors vont quand même pas bien. Donc, alors que tu pouvais te dire à une époque, quand Curry roule, les Warriors roulent. Là, c'est tout le reste qui va pas. Clay, en effet, il est payé 43 millions de dollars cette année. 16 points de moyenne, c'est sa pire moyenne depuis plus de 10 ans, 2012-2013. Alors, il fait des bons derniers matchs sur les 5 derniers. T'en as un à 24, un à 30, un à 28 avec des pourcentages à 3 points au-dessus de 44.
Même sur les 3 derniers, il est plutôt très correct.
Il est très correct. Donc, ça remonte, mais sur le début de saison, c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un Klay Thompson, et forcément, il y a des conséquences sur les résultats collectifs.
Sacha, c'est la fin ou pas de cette équipe ?
Je sais pas si c'est la fin, mais je pense que c'est la fin des responsabilités qu'on doit donner justement à des joueurs comme Klay Thompson. Klay Thompson, depuis ses retours de blessure, c'est pas le même homme. Je pense qu'on le voit dans énormément d'épisodes, même dans le dernier titre qu'ils prennent, dans les playoffs, tu sens que c'est plus le même Klay Thompson. Donc je pense qu'il faut arrêter.
Et il défend vachement moins bien, quand
même. Oui. Je pense qu'il faut arrêter de. Alors, il faut respecter ceux qui ont apporté les titres, ceux qui sont en place. Mais voilà, c'est un peu les faiblesses de tes forces, tes 7 dynasties, etc. Mais quand est-ce que tu vas faire la passation ?
Tu le foutrais sur le banc, lui aussi ?
Bah oui, clairement. Là, aujourd'hui, je pense que quand tu vois ce que produisent les jeunes avec très peu de temps de jeu et avec des responsabilités, tu vois que ça peut aller dans le bon sens. Et tu retrouves aussi des similitudes avec les rôles qu'avaient des joueurs qui étaient ultra importants dans les Warriors qui gagnaient des titres. Podziemski, il y a un parallèle à faire avec André Iguodala dans le fait de combler un petit peu les brèches, les lacunes de l'équipe, de fluidifier le jeu pour tout le monde. C'est hyper intéressant. Trace Jackson Davis qui sur le papier est un profil de joueur qui serait peut-être un peu obsolète pour d'autres styles de basket, eh ben, il peut bien s'exprimer chez Warriors. C'est un peu une sorte de Blake Griffin du pauvre, hein, si tu veux que je te vulgarise. Très athlétique, pas forcément hyper grand, mais il peut aller vite vers l'avant et très très haut. Donc ça leur permet de créer des espaces. Et lui notamment, il se révèle plutôt bien dans ses derniers matchs. Ça fait partie des joueurs qui ont été responsabilisés. Je pense qu'il y a une passation à faire. Ils ont des jeunes qui ont envie de jouer et qui savent jouer au basket parce qu'ils ont quand même ce talent de drafter des, à chaque fois des bons joueurs. Kuminga, je pense que c'est vraiment...
C'est vrai que alors il y a des franchises qui sont catastrophiques sur les drafts. Eux sont très bons quand même.
Bah, ils sont quand même plantés sur Wiseman, hein. Faut quand même se rappeler aussi. Alors oui, bien sûr, dans l'absolu,
ils ont plutôt des... Si tu veux la balance, elle est très positive.
La balance, elle est extraordinaire.
Combien d'inconnus ils ont sorti, tu vois, des mecs qu'on ne connaissait absolument pas, mais quand tu vois les Looney, etc.
Wiseman, c'est sympa à voir.
C'est très très sympa, et je trouve que ça rentre complètement dans le moule.
Avant la blessure, c'était un très bon pic, Wiseman. C'est-à-dire que tu peux pas considérer un mec qui échoue
sur le papier, tu peux pas passer
sans
à côté
coup du fait. Sort. Ok, c'est un échec. Un mec qui échoue.
C'est un énorme pari. Hein.
Il a fait même... plus d'un an sans jouer.
Oui, mais il faut quand même se rappeler quand il a été drafté, on l'avait pas vu jouer ou quasiment de l'année précédente. C'était comme un énorme pari. Et puis ça se tente effectivement de prendre un grand parce que qu'on le dit, leur principal problème défensivement, c'est de pas avoir de protecteur de cercle. Donc c'est vrai que ça se tente, mais bon voilà.
On c'était peut qui à la place la Melo Ball, c'est ça?
C'était ouais, je
c'est
crois
ça le choix ça.
Ouais
c'est ça. Peut dire que oui, il y avait autre chose à faire. Est-ce que Chris Paul c'est une erreur de casting?
Non. Moi, je trouve pas. En tout cas, Chris Paul, c'est vraiment. Ça me rappelle le Sean Livingston qui sortait du banc pour les Warriors quand il gagnait des titres. C'est ce.
On respecte un peu Chris Paul là. Quand même.
Mais c'est Chris Paul avec moins de cannes quand même. Hein.
Non, mais voilà, c'est ça. C'est que c'est un gros joueur qui maintenant doit prendre un autre rôle, mais qui le fait très très bien. C'est efficace quand il sort du banc. Il sert tout le monde. Moi, j'aime bien ce qu'il apporte.
Il peut plus changer la donne en fait. Il est trop vieux pour changer la donne.
Mais c'est ce qu'on demande. À un mec qui sort du banc.
C'était un tueur à mi-distance. Tu vois que les équipes défendent un peu moins sur lui maintenant parce que ça rentre un peu moins quand même. Alors il y a toujours le côté vétéran, il a tellement d'expérience qu'il sait, il sent le jeu. Mais c'est pas lui qui changera la donne de la franchise, c'est ça que je veux dire.
Alors de la franchise, non, mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant d'avoir un mec qui sort du banc, qui est capable de t'amener le ballon où il faut, de faire jouer les jeunes, justement, de les mettre en confiance. Concrètement, moi j'aime bien ce qu'il propose Chris Paul.
Et le banc n'est
pas du tout favorable au départ à Chris Paul là-bas. Je me disais, mais c'est quoi, ça n'a aucun sens. Et finalement, je trouve pas que ce soit si mauvais que ça.
Donc c'est pas une erreur de casting pour personne.
Non. Il apporte l'intelligence en plus dans une équipe qui parfois en manque cruellement. Tu vois que justement ce qui fait que leur jeu de transition en attaque est un peu pourri, c'est qu'ils font n'importe quoi. Lui, il apporte cette stabilité-là, ce QI-là.
Il faut.
Non, c'est ça.
C'est Chris Paul, il fait du Chris Paul de toute façon. Il en France.
S'il n'y a pas Curry ou Chris Paul sur le terrain, c'est catastrophique. Concrètement, c'est les Warriors, c'est ça. Ça veut dire qu'ils ont besoin de l'un des deux tout le temps sur le terrain.
C'est pas une critique, c'est dans le sens, c'est pas lui qui va changer la donne.
Pour finir ce premier débat, petit tour de table, est-ce que vous voyez Steph Curry gagner une bague supplémentaire avant la fin de sa carrière, Fred?
Non.
Non?
Non, je vois pas comment ce serait possible. J'ai l'impression vraiment que cette équipe est
vieillissante. Même en modifiant l'équipe, en faisant des échanges.
Quand tu regardes un petit peu la concurrence, quand tu regardes ça progresse un petit peu. Pour moi, Denver, c'est au-dessus. Je les ai fait hier soir. Denver, c'est très sérieux. Tout le monde est impliqué. Les rookies aussi travaillent bien. Leur banc est plus intéressant. Et puis, quand tu as un Jokic dans ton équipe, tu peux voir venir.
Il y a trop de concurrence. C'est pas comme si tu disais, si tous ces mecs retournent à leur bon niveau, bien sûr qu'ils peuvent jouer en play-off face à face avec n'importe qui. Ils seront chiants, mais c'est pas. Tu te dis pas, bon, s'ils sont tous là, ils sont deux niveaux au-dessus de tout le monde, ils sont injouables et ils vont aller prendre la bague tranquille, pas du tout.
Sacha,
je pense que la bascule, elle a opéré dans la conférence Ouest. Ils ont pris le titre au moment où on est à l'initiation de cette bascule. Et là, ça y est, les jeunes équipes sont en train de prendre le pouvoir dans cette conférence Ouest. Et eux, malheureusement, ils incarnent un petit peu le passé. Donc, à voir si les jeunes qui vont responsabiliser et mettre dans le 5 de départ vont pouvoir les rehausser dans les équipes play-in, etc. Moi, je pense qu'ils vont rester dangereux si ça reste play-in, play-off, parce qu'il y a l'expérience. Parce que, justement, le fait de donner trop de crédit à ces anciens, ça va les mettre aussi en confiance, je pense, pour les play-offs. Donc, je me méfierais quand même, mais ça paraît difficile sur le papier.
L'anomalie, c'est peut-être pas cette saison. Hein. L'anomalie, c'est peut-être le titre il y a 18 mois.
Ah, bien sûr que c'est l'anomalie.
C'est ça. Mais je pense que tout était réuni.
Tout le monde, hein,
Toutes les autres équipes autour, en fait, étaient peut-être en train de se chercher. Eux, c'était ceux qui avaient encore un peu de stabilité. Ils l'ont fait parler au bon moment, je pense.
C'est donc un spécial Warriors de cette semaine dans Basket Time sur RMC. Et voici l'un des débats les plus sulfureux de l'année.
Gobert gets in there. Draymond's got him in a headlock. There's a lot happening here.
People have called Draymond Green a dirty player for a decade. 19 ejections, 6 suspensions.
Oh, man.
Well, that's going to be a flagrant.
And then Draymond, he headlocked Gobert there. So
and now Green runs over Nurkic, and he'll be called for the foul. And they're going to take a look at this. Nurkic is down in a heap.
With Draymond Green suspended indefinitely at his big age, with gray in his beard, Draymond
Green is being suspended and basically being told to fix his attitude before he plays basketball again.
I like Draymond, but this is, you can't punch guys.
Oh, l'avant-dernier extrait qu'on a entendu, le mec il a une voix incroyable, on dirait un instrument de musique.
Ouais, c'est beau.
C'est incroyable, non? C'est un don de la nature, ça, quand même.
Oui.
Ouais. Un très bel organe, comme on dit.
Alors là, attention, Draymond Green est-il une fraude? Pourquoi cette question? Quand on a un tel palmarès, ça peut surprendre. Mais il se trouve que les langues se délient. Après un énième dérapage, un coup violent au visage sur Youssouf Nourkic, ça, franchement, c'est sale. C'est mal fait. On comprend bien qu'il veut faire croire que c'est involontaire. Il met une énorme tarte volontairement.
C'est même pas bien fait, le spécialiste combat te le dit.
Exactement.
C'est même pas un beau coup, mon ami.
C'est mal fait, c'est sale, ça sert à rien en plus. Green, joueur violent et récidiviste, serait aussi un piètre basketteur. Et c'est là le débat, parce que certains commencent à le dire. Il s'est caché toute sa carrière derrière le talent de joueurs hors normes, Curry, Thompson et Durant, sans qui il ne serait rien. Draymond Green est-il une fraude? Ne me regarde pas comme ça, Fred. Je sais que les joueurs de l'ombre, c'est important. Je sais que tu les aimes. Mais là, il y a un vrai débat. D'abord, on va refaire les états de service de Draymond Green, un des joueurs les plus détestables de la Ligue, Sacha.
Bah,
l'état de service de Draymond Green, quand même, parce que c'est... On a commencé par des front kicks dans les parties génitales de Steven Adams en play-off. Hein, et je ne sais pas si l'expert combat valide.
C'est pour ils ça qu'on a combien Alex aujourd'hui. Hein.
Après, on va te donner un petit peu de piétinage de Domantas Sabonis quand il est au sol. On a tentative d'étranglement.
C'est interdit, ça. Hein. Ouais. C'est interdit, Sacha.
Tentative d'étranglement non verrouillée sur Rudy Gobert.
Totalement
pour la
pas
suspension.
Verrouillé. Grosse erreur de la place de Draymond.
Non, mais ça, plus les embrouilles avec Kevin Durant sur le terrain directement lorsqu'ils étaient ensemble aux Warriors et des énièmes échanges. Ouais, la patate de Jordan Poole à l'entraînement, les insultes avec toutes les autres équipes, avec LeBron et compagnie. Draymond Green, concrètement, c'est le mec qui a eu des passes droits parce que les Warriors ont gagné des titres et qu'ils étaient majoritairement soft. Lui avait le droit d'être brutal avec les autres. Et c'est un joueur dont on va retenir en highlights des patates, des piétinements et rien d'autre.
Il n'y
a rien à retenir. C'est-à-dire que sortez-moi une action mémorable de Draymond Green positive. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Vous allez me dire rien. Vous allez me dire, ouais, il y a un moment où il crie, il leur dit d'aller défendre. Ok, super, les gars.
C'est bien déjà d'arranger
ses partenaires. La réponse est dans ta question. En fait, si tu n'as pas d'image mémorable, c'est que c'est le joueur de l'ombre. C'est celui qui colmate les brèches dont on a besoin.
Ça devient trop compliqué pour lui. Tu ne peux pas lui expliquer à ça.
Si Draymond Green sert à rien, on va devoir refaire beaucoup de choses dans l'histoire de la NBA parce que et s'il a juste été carry, enfin juste porté par Curry, Durant et Thompson, on dit quoi de Rodman par exemple?
Rodman,
il a juste été porté par Pippen, Jordan et par
Dumars
et par Dumars avant et
ah non mais Rodman
et Lambeer, enfin tous ces mecs là n'ont servi à rien
Rodman
dans les dynasties.
Un talent particulier, c'est un génie du rebond, c'est un génie de la défense et du don de soi. Draymond Green, c'est un génie de quoi? C'est un génie de faire la passe au meilleur shooter de tous les temps. C'est un génie de faire la passe à l'un des meilleurs catch and shooters de tous les temps. C'est un génie pour trouver des écarts parce qu'il n'est pas regardé sur le terrain, parce que ce n'est pas la star, parce qu'offensivement il est en dessous des autres. Donc oui, il a des flotteurs parce que en fait les gens s'écartent quand il drive parce qu'on n'a pas envie de défendre sur lui parce que ça sert pas à grand chose finalement. Donc les écarts se créent autour de lui, tout en sachant qu'on sait que quand une équipe domine, elle a les faveurs des arbitres avec elle. Draymond Green a pu faire des écrans en mouvement dans tous les sens pendant des années pour libérer les shooters sans qu'on lui dise rien, et c'est un petit peu le personnage de manga qui protège le mec qui est trop fort et qui est un petit peu faible mentalement. Tu vois, il est là, c'est une armure, il est complètement débile, il va à la guerre, mais c'est pas lui finalement.
Mais on va regarder.
Mais dans ton manga,
c'est un festival, Sacha.
Dans ton manga, le héros, il gagne à la fin s'il y a pas ce mec là.
Ah bah pas forcément, mais en tout cas c'est lui qui peut se faire défoncer et c'est pas lui en tout cas qui va faire la bataille finale, ça c'est sûr.
Tu regardes quel manga toi, Fred? Parce que là faut être spécifique manga maintenant dans Basket Time.
Je sais pas, c'est un truc clownesque, j'en ai marre d'entendre des Sacha, j'en ai marre des gens qui disent des conneries sans arrêt, qui comprennent rien au basket, qui pensent que parce qu'il y a un mec qui shoot dans tous les sens, c'est lui le meilleur joueur et que le mec de l'ombre il sert à rien. C'est insupportable. Alors oui, il faut regarder du basket, mais il faut essayer de le comprendre aussi. Il faut lire des livres, Sacha, parce que de temps en temps, c'est intéressant aussi de lire. Parce que voir que des conneries et voir que des highlights, ça sert à rien.
Draymond Green,
concrètement, c'est un mec qui a un QI basket très très important. Alors
ah bon
concrètement, je l'aime
alors
pas du tout.
Que basket, par contre.
Concrètement, je l'aime pas du tout. Hein. C'est vraiment pas le joueur que j'aime et que j'affectionne, mais il faut quand même reconnaître la vérité. Ce garçon est capable de faire des passes, de prendre des rebonds, de défendre sur le meilleur joueur d'en face. Parce que concrètement, ils ont toujours été limités défensivement sur l'intérieur. Lui, il s'est toujours sacrifié. Ce mec, il fait quoi? Il fait 2 mètres? Il est capable de défendre sur les grands pivots. Il les a embêtés. Il envoie, oui, le ballon où il faut. Mais il en faut des mecs comme ça aussi. Il faut des mecs qui fluidifient le jeu. Chris Paul, là, maintenant, sans ses cannes, c'est un mec qui envoie le ballon au bon endroit. Et je pense qu'il est très fier de faire ça. Il a aidé son équipe. Alors, non, ça n'avait pas été le joueur le plus majeur de cette dynastie. Mais par contre,
défenseur
sans lui,
de l'année, quand même.
Tu le fais pas parce que.
Il y a plein. Défenseur de l'année. Star, à mon avis, demande aux autres Warriors s'il était important dans leur du titre. Mais ils vont te répondre. Ils seront unanimes.
Il faut un bad boy dans une équipe. C'est une équipe de gentils, Golden State.
100 points quand même, ça c'est quelque chose.
De quoi ?
Il a fait un triple double sans les points.
Oui, mais c'est
quand même quelque chose.
Il a pas
c'est un
plein de choses
de qui il est. En
non,
fait.
Mais c'est non, ça glorifie ça. Les stats au basket. Je trouve ça horrible, moi.
Parce qu'il fait un triple double sans points ?
Oui, en fait, ouais. Il comprend vraiment rien au basket.
Mais moi, non, mais
moi, il m'insupporte. Je vais le frapper. Je
comprends.
Je vais le frapper.
Ce jour-là, il dit. Non, mais ce jour-là, il
m'a dit. En plus, j'ai m'inspiré de Draymond Green.
Là, en fait, j'ai Jordan Poole et Draymond Green aujourd'hui. Il y a que Sacha et Fred.
Non, mais c'est important ce qu'il dit, Fred. Je comprends qu'il faille respecter ces personnes-là, mais on parle quand même de Draymond Green. On
ne respecte personne. Non, mais c'est vrai aussi, Fred.
On parle d'un joueur.
Ça n'a aucun rapport. C'est pas parce qu'un gars est débile que tu dois être débile toi aussi.
Non, mais
lui, effectivement, en dehors du terrain, c'est un débile. Oui, étrangler un mec, c'est un débile. Donner un coup de poing comme sur Nurkic. En faisant semblant d'être un bon comédien, c'est débile. Oui, tu peux
mais
pas
non,
dire
mais, en fait...
mais il est simplement aigri, il a plus les cannes. T'as plus les cannes, tu deviens vieux, t'es aigri, tu vois que ton équipe ne va pas bien, tu fais des conneries, ok ? C'est pas excusable, mais on peut comprendre ce qui s'est passé et le
ça
processus.
Ça changera au joueur, tu veux dire.
Mais ça changera au joueur qu'il a été. Ça changera que sans lui, cette équipe, c'était une équipe différent.
Alors,
c'est pas le Draymond de Gobert et Nurkic sur lequel il faut juger Draymond pour toute sa carrière.
Mais c'est la culture de l'instant, c'est Sacha, ça.
D'accord. Donc, Draymond Green, en fait, c'est pas un joueur qui est sublimé par le système des Warriors. C'est pas un joueur qui, si tu le mets dans une autre équipe, sert à rien.
Non,
c'est
non,
pas
non.
Ça.
Pour moi, c'est un rouage du système. C'est pas pareil. C'est un rouage. C'est un rouage de ce système.
D'accord.
C'est-à-dire que sans lui, le système est grippé.
Combien de mecs se sont plantés aux Warriors ? Est-ce que dans ce système-là, il y a beaucoup de joueurs qui sont plantés ? Est-ce que JaVale McGee n'est pas devenu un meilleur joueur dans le système des Warriors ? Est-ce qu'on n'a pas 10 milliards d'exemples de mecs mauvais ?
Attendez,
il n'y a pas, énormément de joueurs qui étaient mauvais dans le...
Pas beaucoup. Tu ne t'en es pas rendu compte ? Regarde
non, mais c'est facile de dire que je connais rien. Par contre, sors-moi les mecs qui sont arrivés aux Warriors et qui se sont chiés. Il n'y en a pas, parce que le système, il est trop bien.
Mais, lui, il n'est pas arrivé aux Warriors, il a fait les Warriors. Et après, les gens sont venus, ils sont intégrés, ça n'a rien à voir. Il a fait les Warriors.
Tu ne peux pas te tomber dans un meilleur contexte que les Warriors, peu importe
quand
tu tombes dedans.
Mais parce qu'il était dans ce contexte, c'est lui qui a fait les
Warriors.
Il a apporté, il faut arrêter ça.
On va se tourner vers Alex, la question.
Pourquoi tu l'appliques pas dans le contexte ?
Qui enflamme Sacha et Fred, c'est est-ce que sans Draymond Green, ça aurait été la même équipe, Alex ?
Non, pas du tout. Je pense pas du tout que ce soit la même équipe. Ça aurait été bien sûr que le talent de Curry et de Clay et de Durant quand il était là. Ils sont indéniables. Mais tu disais tout à l'heure, les écrans, tout ce qu'il a fait pour apporter. Il faudrait qu'on ait la stat, tu vois, du nombre de 3 points mis après un écran de Draymond, par exemple. Tu vois, ce qui te montrerait aussi le truc. Tu dis Sacha, et je t'entends, il est sublimé par le collectif. Mais l'inverse est vrai. Il sublime aussi le collectif. Et quand,
il fait partie de la machine.
Et quand tu dis que les mecs arrivent aux Warriors et ça tourne bien, bah, il fait partie des mecs qui ont fait que ça tournait bien. Ça se trouve, avec un autre mec qui aurait mis plus de choses négatives dans les rouages, et bah, ça tournerait pas aussi bien.
Seul problème de cet argument.
Moi, je ne le trouve ni surcoté ni sous-côté.
Je ne pas venir au secours de Sacha.
À sa côte.
Mais ça c'est un point de vue tout à fait respectable. Ce que je veux te dire, c'est que quand il n'était pas là, les Warriors étaient moins forts, ça marchait moins bien. Mais tu peux estimer qu'avec un autre joueur de ce type-là, ça aurait fonctionné.
Qui est le type-là?
Mais il est
je sais pas, juste capable de défendre, de prendre un rond et d'amener le ballon.
Mais à l'inverse,
moi, un joueur
l'une des critiques que j'ai lues récemment, là, surtout ces derniers jours sur Draymond Green, c'est que c'est lorsque les autres n'étaient pas là qu'on voyait sa nullité entre guillemets
mais
de joueur de basket.
Mais bien
ça,
sûr.
Ça, c'est un truc qui se dit en ce moment chez les haters de Draymond Green aux États-Unis.
Et alors, je vais répondre à ça. Effectivement, ce mec a besoin d'un système pour marquer des points. Parce qu'offensivement, c'est pas le mec le plus talentueux de la Terre. Mais ça n'empêche pas qu'il aide son équipe à gagner.
Oui,
comme je disais, c'est un rouage de ce système.
Il a très peu de saison à 10 points ou plus. Non, mais c'est ça.
Mais c'est surtout le rouage, ça veut dire qu'il apporte des choses que les autres n'apportent pas. Effectivement. Est-ce que tu as besoin de marquer des points quand tu joues à Golden State, quand tout le monde est en forme ? Quand tu as Wiggins, Clay, Steph qui mettent des points, à quoi ça te sert de marquer
des
points ?
Oui, d'accord, mais s'il ne sait pas le faire, peut-être qu'ailleurs qu'à Golden State, il aurait fait une carrière médiocre. Ça, c'est possible.
Mais il n'aurait même pas fait de carrière.
Mais ça, on ne sait pas.
Mais nous, on a des cartes qu'on nous a dit les cartes. On joue avec les cartes qu'on a dit. Et pas se dire, mais s'il avait été aux Suns ou s'il avait un autre avait été à sa place. Fred a cité un mec tout à l'heure que je trouve dont la comparaison est très bonne, Bill Laimbeer. Regardez les Bad Boys de Détroit de la fin des années 80. D'accord, il y a sans doute un autre niveau offensif pour Bill Laimbeer, mais c'est exactement le genre de mec qui te faisait tourner le collectif et jouer le roi.
C'est Bruce Bowen des Spurs, si tu veux.
Moins facilitateur, Bill Laimbeer.
Moins facilitateur, tout à fait.
Bien plus fort en attaque, mais moins bon pour donner les ballons au bon endroit.
Ce genre de joueur hyper important, et sans Laimbeer, malgré Dumars et Isaiah Thomas, il
vit dans
le bouquet.
Il vit dans NBA Bouquet.
Mais
alors évidemment, il peut pas.
Il faut arrêter, c'est trop facile de dire ça. En fait, vous êtes en train de m'expliquer que c'est pas un mec qui a fait le constat dans sa carrière de je suis naze. Et donc, en fait, je vais essayer de trouver un moyen de rester en NBA. Bah, c'est de faire des passes au mec fort. C'est juste ça, en fait. Donc, en fait, t'aurais.
Mais tu crois qu'il s'est levé un matin qu'il a dit.
Non, mais attendez. Jonathan Kuminga, aujourd'hui, il est pas capable de faire ce que fait Draymond. Il n'y a pas un milliard de mecs qui sont un peu undersized, donc qui sont censés défendre sur des grands, mais qui sont un peu plus petits, qui savent faire des passes parce que toute leur vie, bah, ils ont défendu sur plus grand, donc ils sont meilleurs passeurs et qui savent prendre un peu des shoots et comprendre ce qui se passe autour d'eux. Il y en a 10 000 en NBA, il faut arrêter.
Je te suis, puisque tout à l'heure j'ai dit Steve Kerr, je trouve que pour mettre une nuance, il sort pas assez ses vieux totems et qu'un Kuminga pourrait être plus exploité. Mais là, on parle de maintenant. Tu ne parles pas de toute la dynastie ou tout ce qu'a apporté Draymond dans les années d'avant.
Mais toute la dynastie, le truc, c'est qu'il n'y a pas que Draymond. Tu vois, typiquement, un mec comme Iguodala, c'est un peu la même chose. Et pourquoi je saucerais plus Draymond que Iguodala pour les stats? Bah attends, sans Iguodala,
bon,
c'était
pour
compliqué
finir,
aussi.
Juste un mot quand même, on va pas comparer Draymond Green à Dennis Rodman quand même, parce que tout à l'heure il y a eu la comparaison pour le rôle.
Tu peux répondre à ça, s'il te plaît. J'aimerais répondre à ça, vas-y. Parce que Sacha vient de nous dire, oui, c'est un mec qui un jour il s'est rendu compte qu'il était pas assez fort et donc il s'est dit on va faire la passe et faciliter le jeu. Qu'est-ce qu'il a fait Dennis Rodman? Si qu'offensivement, je suis pas assez fort, je vais prendre des rebonds. C'est exactement ce qui s'est passé.
Dans le rôle, exactement.
Rappelle-toi ce qui s'est passé pour Dennis Rodman.
Il était déterminant quand même.
Dennis Rodman, quand il était au Pistons, c'était un joueur qui pouvait scorer.
Oui,
et d'un seul coup, il a dit non, j'arrête, parce que des mecs qui scorent.
Le Rodman de la fin des années 80, c'est pas le même que celui-là.
Mais parce que Rodman a fait deux équipes.
Il s'est transformé en joueur. Est-ce qu'il n'aurait pas été capable de le faire?
Bah non,
c'est rien en fait.
Mais Rodman a fait deux équipes.
Il a créé un système et il a aidé trois super mecs.
Plus facile.
Franchement, si t'es
de moins marqué que de plus marqué.
Oui,
franchement, si t'es Draymond Green et comment ça se passe ces dernières années, tu te dis à un moment. Allez, je vais quitter cette dynastie où on enchaîne les titres parce que je veux aller marquer 14 points au Sacramento.
Mais non, mais jamais tu quittes ton confort. Non, mais je veux dire, t'as grandi dans un hôtel 8 étoiles. Qu'est-ce que tu vas aller dire? Je vais aller au camping. Bah non, t'y vas pas. C'est une logique quand même qu'il le fasse pas, Draymond.
Mais il a raison parce que.
Non, mais ça ternirait sa legacy, ça ternirait son héritage. Il a pas le choix. Il est dans la prison dorée de Golden State.
Messieurs, merci beaucoup pour cet excellent débat. C'est un basket time spécial Golden State Warriors et on passe à la partie historique.
McGrady for three. Good. He is a magician. McGrady fouls, picked up. Yes. A potential for three. Yes. McGrady over for the win. Yes. 1.7 to go. Here's Kobe. Kobe again. Yes, sir. 81 point game. 55 in the second half.
Ladies and gentlemen, you have witnessed the second greatest scoring performance in NBA history.
Je viens d'assister à une scène folle pendant l'illustration de la partie historique. C'était la scène Jordan Poole Draymond Green entre Sacha et Fred. Bon, comme Fred est moins débile que Draymond Green, et heureusement, il lui a pas mis de patates. Mais ils se sont chauffés tellement ils étaient énervés. Hein.
Pierrot,
il
mérite une.
Pierrot, ils sont venus se frotter là. Trois épisodes pour comprendre que le vrai podcast de sport de combat, c'est pas Fighter Club, c'est Basket Night.
Ceux qui regarderont sur YouTube verront qui m'a mis une incroyable patate et que je demande sa suspension. Moi, j'ai essayé de faire une Kimura, mais son bras est bien trop lourd.
Bon, vous ressentirez les images, bien entendu. Alors, quel est le plus grand pyromane de l'histoire? Puisqu'on parle des Warriors, évidemment, il y a des spécimens avec Klay Thompson, avec Steph Curry, le joueur capable de prendre feu et de tout déchirer. Et alors là, il n'y a plus besoin de système ou de quoi que ce soit. Tu passes la balle au mec qui est en feu. C'est ça, un pyromane. Fred, de qui vas-tu nous parler dans cette partie historique?
Ben, le principal pyromane de ma jeunesse, j'ai envie de parler de Reggie Miller.
Ah, très bien.
Et alors, on va commencer au 7 mai 1995. Il va traumatiser New York. Au Madison Square Garden, alors c'est vraiment sa salle en plus. Hein. Donc on est sur le match 1 de la demi-finale de conférence, et lui il dira, tous les spectateurs ont dit, j'ai quitté le match, j'ai éteint la télé, je suis allé me coucher bébé parce que le match était fini. Alors non, il n'était pas fini, il restait 18 secondes, et il va faire une folie. Mais il faut remettre dans le contexte, l'année précédente, les deux équipes sont en finale de conf déjà. Mm-hmm. Ils sont au match 5, les Pacers sont dominés, John Starks défend très bien sur Reggie Miller, et tout le public au Madison Square Garden, vous savez, hein, toujours très sympathique, le Madison Square Garden, crie « Cheryl, Cheryl !» du nom de la sœur de Reggie Miller, histoire de le chauffer un petit peu. Mais le pire, comme d'habitude, c'est Spike Lee. Il est infernal et il va se passer un truc complètement fou. Au début du dernier quart-temps, les Pacers sont menés 70 à 58. Et là, Reggie Miller va marquer 5 tirs à 3 points, ce qui est un record pour l'époque. À l'époque, on shootait beaucoup moins à 3 points, donc 5 tirs à 3 points. Oui, c'est un record, hein. ça paraît surprenant maintenant. Et il va surtout marquer 25 points sur le dernier quart-temps. Le trash talker qui va devenir le Nick Killer va faire le choke sign à son meilleur ami. Il va montrer à Spike Lee, tu vas mourir, tu vas souffrir, en mettant les mains sur son cou. Et après,
c'est comme un signe d'étouffement.
Ouais, exactement. Mmh. Mais voilà, pour lui dire qu'il va mourir. Donc Spike Lee qui se fait chambrer encore, il s'attrape bien sûr la partie intime devant tout le monde en montrant que moi j'en ai. Et Reggie Miller, à la fin, va marquer 39 points, 6 passes.
Dont 25 dans le dernier quart, c'est ça ?
25 dans le dernier quart. Et donc, comme je disais, 5 paniers à 3 points. Spike Lee va faire la une de la presse à New York. C'était marqué « Merci Spike ». En gros, t'as réveillé le monde, c'est à cause de toi si on a perdu. Donc on va revenir à 95. C'était quand même pour expliquer ce qui s'était passé l'année précédente. Alors, ils sont menés aussi, là, les Indiana Pacers, ils sont menés de 6 points. D'accord ? Il reste 15-18 secondes, un truc comme ça. Donc, il met le premier shoot à 3 points. Dans la foulée, il intercepte, il reprend le ballon, il remet un autre shoot à 3 points. Et là, il a mis 6 points en 5 secondes 5.
Donc, égalité.
C'est la folie. Au Madison Square Garden, comment on commence à stresser.
C'est mieux qu'un France-Grèce, quoi.
Et on se retrouve avec John Stark sur la ligne de lancer franc, parce qu'il y a une erreur de défense. On fait faute sur John Stark, il reste très peu de temps, il rate les deux. Bien sûr, certainement sous le choc de ce qui venait de se passer. Rebond de Patrick Ewing, qui shoot, qui rate. Rebond de Reggie Miller. Mais faute sur lui, Reggie Miller, il rate pas. Il prend le rebond, il a les deux lancers francs, il marque les deux lancers francs, et ils vont s'imposer dans ce match. Il aura marqué 8 points en 8,9 secondes. Donc quand on parle de mec qui peut prendre feu, vraiment, on peut penser à lui. Et surtout, trash talker incroyable, on l'a dit, hein, Spike Lee lui a fait le geste qu'il allait mourir. Il adore cet endroit, il adore le Madison Square Garden. Et ces rendez-vous avec les Knicks, c'était toujours surréaliste.
Reggie Miller, 1995, magnifique, merci Fred. Sacha, qui est ton pyromane ?
Ah bah forcément, je vais te parler de quelqu'un qui va représenter la chaleur, les flammes, le lance-flammes. Je vais te parler de l'homme qui se sublime en play-off et qui devient une véritable torche humaine, Jimmy Butler de Miami.
Jimmy Bucket.
Parce que, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un s'enflammer comme Jimmy Butler sur un terrain, tout simplement ? Est-ce qu'on connaît un joueur qui fait de meilleures stats en play-off qu'en saison régulière ? Bah pas trop, finalement, il n'y a que Jimmy Butler qui peut rentrer dans ce cadre-là. On rappelle qu'il est passé par Chicago, par Minnesota, par Philadelphie et par Miami, ça a toujours été celui qui était le meilleur dans ces équipes-là en play-off. Ça a toujours été lui qui mettait les shoots clutch. C'est quelqu'un qui s'est joint à des grands noms. Et en fait, c'est pour ça que c'est le pyromane par excellence. Parce que c'est un joueur qui, quand il est en play-off, il est au même niveau que les légendes du game, en fait. Il est au même niveau que les plus grands de tous les temps. Il se joint à des LeBron James... Pardon ?
Le micro est fermé, Fred.
Il est pas au niveau de Draymond Green.
Non,
parce qu'il s'est joué au basket. Non, Jimmy Butler, c'est le pyromane par excellence parce que, comme je le dis, c'est un joueur qui, sur deux matchs de play-off, dans les premiers matchs, peut mettre autant de points qu'un Jordan, par exemple. Ça a été le seul à mettre, je crois, ses 98 points sur deux matchs de suite en play-off. En cumulé, hein, bien sûr. Il a battu le record de la franchise sur un match en play-off, 56 points. On rappelle que dans cette franchise, il y a quand même Dwayne Wade, il y a LeBron James qui sont passés. Enfin, je peux en citer énormément des records en play-off de Jimmy Butler. Le fait est que ce mec-là est capable d'emmener une équipe en finale. Il est capable de sortir l'équipe qui va finir numéro 1 de la conférence Est, alors que personne n'y croit, alors qu'on dit qu'il est entouré de joueurs qui sont non draftés ou des rookies. Il n'y a personne qui peut prendre une équipe sur son dos comme Jimmy Butler en play-off, et peu importe les mecs qu'il y a autour. Et je pense pas que ce soit le cas de Draymond Green.
Très bien. Jimmy Butler, surnommé Jimmy Bucket, donc Jimmy Panier, évidemment, pour cette raison également. Alex !
Ça va avec son surnom. J'aurais pu te parler, je voulais te parler de Tracy McGrady au départ, ouais. Quand même. Parce que
Tracy McGrady, il y a un
coup de feu aussi, c'était contre les Spurs, je crois, 9 points.
13 points en 35 secondes.
Ouais. C'est ça, 13 points en 35 secondes.
C'est correct.
C'est très correct.
En 2004.
C'est très correct comme fin de match, mais bon. épisode Warriors, Pierrot, on est obligé de te parler de Klay Thompson, justement, on va revenir sur lui. Klay Thompson, parce que c'est la définition du pyromane incroyable, quand il commence à être incandescent, c'est la folie. On va commencer par le 23 janvier 2015. Il est en quête de sa première sélection All-Star, qui tombera quelques jours après, donc il est mort de faim. Il sera désigné comme réserviste au All-Star Game. Il vient de signer un nouveau contrat aussi de 4 ans, donc il est très en forme, notre ami. Contre Sacramento Kings, il va nous faire un petit 52 points avec 11 tirs à 3 points, mais c'est surtout le troisième carton qui est démoniaque. 37 points, record NBA sur un carton, 18 points d'affilée à un moment dans le carton.
18 points d'affilée.
13 sur 13 au tir, 9 sur 9 à 3 points, qui est un autre record NBA sur un carton, bien entendu. Ouais,
les 13... et tout ça grâce aux mains à main, aux passes et aux écrans de Draymond Green, c'est quand même fort.
Alors, on va re-regarder ce match, on va regarder les passes de Draymond.
C'est 13 tirs réussis dans un carton, c'est record égalé de NBA exactement. Il appartenait à David Thompson, ancienne gloire des Denver Nuggets. Il prend des tirs dans toutes les positions. À la fin du match, il dit j'ai pris plein de mauvais tirs, mais j'avais décidé de continuer jusqu'à ce que ça ne rentre plus. Sauf que ça rentre tout le temps.
Faut avoir de la confiance pour faire ça.
Voilà, sauf que ça rentre tout le temps. Et puis c'est la définition de ce que change un pyromane. Les Sacramento Kings, ils étaient menés de 5 points à la pause. Ils sont à plus 2. En début de troisième quart-temps, ils font un tout petit 7-0 au début du quart-temps, donc ils sont à plus 2. Après le rush de notre ami Klay Thompson, on est à 97-73. Mmh, donc ils ont pris 24 points dans la tête, dans la ganache, par un seul mec qu'on a mis 18 de suite. Et puis ça, c'est pas sa seule pyromanie à Klay Thompson dans sa carrière, loin de là. 5 décembre 2016, 60 points en 29 minutes. Pour mettre les 60 points, il fait que 11 dribbles. Il y a 90 secondes de possession, c'est catch and shoot, catch and shoot, catch and shoot, ça rentre. 29 minutes, il joue même pas le quatrième quart-temps. 17 points dans le premier, 23 dans le deuxième. T'es à 40 points en 18 minutes à la pause. Kevin Durant, qui vient d'arriver aux Warriors, il dit: moi j'avais vu Kobe mettre 62 points en 3 quart-temps, mais quand t'es sur le banc et que tu vois ça, t'hallucines tellement c'est incroyable ce qu'il fait. 29 octobre 2018, 14 3 points contre les Bulls, le record de 13 de Curry est battu. Il met 52 points en 27 minutes ce jour-là. Record aussi de 10-3 points en première mi-temps, record égalé de Chandler Parsons. Et 21 janvier 2019, c'est la dernière. 10 premiers tirs à 3 points, ils rentrent tous en première mi-temps, record NBA. Pour un match total à 44 points contre les Lakers.
Quand tu prends 37 points du même joueur en un carton, t'as envie de lui arracher la tête, non, Fred?
Ça va être affreux.
Bah, tu dois lui arracher la tête.
C'est là que tu dis que t'as besoin d'un mec de long pour aller tabasser.
Voilà, juste un mot quand même. On ne peut pas parler de pyromane sans évoquer au minimum le nom de Kobe Bryant. Parce qu'on est tellement habitué à des performances de scoring hors normes qu'on en oublie que c'est totalement anormal ce que tu es capable de faire, Kobe Bryant.
Là, quand je disais, il disait j'avais vu les 62 points en 3 quarts-temps de Kobe, donc c'est ce genre de joueur. Ouais.
Tu avais des mecs comme Michael aussi, hein. Michael Jordan, c'était quand même fou. Il était capable de prendre feu à n'importe quel moment et surtout compter à l'envers pour dire donc 40, 38, 36. Et ça, c'est assez bon.
Ça ressemble à Mohamed Ali qui annonçait le nombre de rounds.
Oui, c'est ça, un peu.
Pendant lequel il mettait KO, dont il avait besoin. Vous êtes prêts pour le quiz, messieurs?
Que oui. J'aime ces comparaisons avec Mohamed Ali.
Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité.
Ah. Le mec sauce sa question. Ah, c'est intéressant.
Mais qu'est-ce qu'elle est bien écrite, cette question, franchement.
Ça prend pour Julien Lepers.
Ah oui.
Ah ouais.
Ah, je sais qui c'est.
Moi,
c'est,
je sais pas.
Je sais qui c'est.
T'as des cerveaux abîmés, c'est pour ça, c'est tout. Mais
t'es pas les paysans. T'es un mec de début de Chaumont, toi.
Pas vrai, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars.
Je l'avais lu en plus.
Mais c'est des calamars. Steve, ils sont là, ils attendent que tu donnes la bonne réponse.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Fred, tu me regardais comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge.
Tu peux me laisser parler ?
Il se passe des trucs dans ce quiz incroyable, non ?
Bon, c'est quoi,
c'était avec toi en
le
plus.
Le jingle de fou.
Le jingle est incroyable.
Alors, c'est un quiz spécial Warriors, ok ? Warriors, ça ne veut pas dire forcément que basket. Nous allons commencer par une question cinéma. Figurez-vous.
Bien sûr, j'en ai une en tête déjà.
Alors, attention.
Je vais répondre ça quoi qu'il
on
arrive.
On cherche un film.
Conan le Barbare.
Je vais vous mettre un extrait. On cherche un film de 1979.
The Warriors.
C'est simple. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Un film culte sur la guerre des gangs.
Warriors, la partie commence. Warriors.
Vous l'avez ou vous l'avez pas?
Bah, si, mais le nom français, je n'ai pas. Le film s'appelle The Warriors.
Exactement.
En anglais.
Warriors en français, les guerriers de la nuit.
Ouais, avec les bandeaux rouges et tout, ils font
il est là,
les
bouteilles. Il est là, il est bon, hein, parce que ça, c'est un film générationnel. Normalement, ouais, c'est interdit au moins de 40 ans.
C'est un peu un West Side Story, mais sans comédie musicale.
Oui, avec que la baston. Avec que la baston sur la guerre des gangs à New York.
En cinéma, il va nous bouffer, Sacha. Je te
non,
dis
mais
tout
là,
de suite.
Tu connais pas ce film, toi, Fred? Je me suis dit que s'il y en a un qui pouvait trouver, c'était toi.
3. Film sur la guerre des gangs à New York, mais donc un vieux film qui a très mal vieilli, attention, mais film culte des années 80.
Il y a de la belle, chevelure.
Ils n'ont pas tiré un jeu vidéo sur ça ?
Si, si,
ouais,
si.
Ça me dit quelque chose.
Avec quelques répliques que cultes, dont celle-ci.
Je vais te foutre cette patte en plein dans le cul et te la faire sortir par la bouche.
Voilà, si vous aimez les films de bagarre.
Non, ça me rappelle pas plus.
Alex,
tu peux... ça te dit rien, ça.
Peut-être dans d'autres contextes, mais.
Alex, tu peux y aller, hein, toi qui aimes la baston. Donc le premier point pour Sacha, je te félicite. Sacha, c'était une question très difficile. Hein. Premier point pour
respect,
Sacha.
Respect, Sacha.
Alors, on reste dans le cinéma. On change de film. On est à Los Angeles. Tu peux envoyer la bande-annonce.
Alors, je vous le dis avec insistance.
Vous connaissez le film peut-être.
Vous devez partir.
Le film, c'est San Andreas, d'accord. On est en 2015 et la faille de San Andreas s'ouvre. Qui interprète le rôle principal?
Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson.
C'est moi qui dis le nom.
C'est The Rock.
C'est moi qui ai dit le nom.
Moi, je l'accorde à Fred qui a sorti The Rock en premier. Bravo, Dwayne Johnson.
Demande la VAR.
Ouais, tu peux.
C'était plus facile que Warriors.
Complètement.
De la nuit, hein.
Bon. C'est un film beaucoup moins intelligent, par contre. Mais...
Alors attention, Les Guerriers de la Nuit, c'est pas du tout un film intelligent.
Oui, mais moi, c'est irrationnel, effectivement.
Alors attention, on va enchaîner avec un blind test très facile, c'est de la rapidité. Souvenez-vous toujours du thème, les Warriors. Premier
extrait. C'est quoi la réponse?
Il faut donner le nom de l'artiste.
D'accord.
Voilà. Le nom de l'artiste.
Non, mais j'ai besoin de précision.
Le nom de l'artiste, premier extrait.
Tupac, ouais.
Tupac et Dr. Dre. Tupac, c'est la bonne réponse, mais je sais pas qui j'accorde entre Sacha et Alex. Franchement, je sais pas. Est-ce qu'en régie, on peut me dire? Alors, on me dit Sacha entre... Et le Real dit Alex. Alors, il y a même litige en régie.
Donne-moi un point, je suis sur deux épisodes de suite.
On va essayer de vérifier.
Et big up à Saladin Parnasse.
Et peut-être qu'on vous donnera un point à l'un ou à l'autre. Alex ou Sacha, t'as démarré trop tard, mon cher Fred. Est-ce qu'on est bon pour le deuxième extrait? C'est pareil, ça va aller très vite. Je vous demande le nom de l'interprète.
The Eagle.
Ah là, cette fois, c'est Alex.
Bravo.
Hôtel California. Bon, allez, on arrête. On va repasser au sport, messieurs, et au basket. Spécial Warriors. Un vrai ou faux sur Steph Curry. Steph Curry et les présidents américains. OK? Vrai ou faux, Fred? Steph Curry a tenu un second rôle dans un film où apparaît aussi Ronald Reagan. C'est vrai ou c'est faux?
Vrai.
C'est totalement faux, c'est moi qui ai inventé ça ce matin.
En termes de période, ça me paraissait compliqué, mais comment inventer ce genre de questions?
Je sais pas, c'est comme ça, pour vous induire en erreur. Sacha, vrai ou faux? Steph Curry, il a publiquement critiqué le président Biden pour ingérence dans le dossier Britney Griner, qui était détenu en Russie, qui a été libéré. C'est faux, il l'a félicité pour la libération, bien sûr, de Britney Griner.
Ah non, mais je pensais qu'il allait critiquer parce qu'il faisait rien.
Non, pour la gérance, il n'allait pas lui dire arrête de faire quelque chose.
Mec. Même la question est...
Non, vraiment, arrête,
vraiment,
parce que
là-bas, elle est
tu t'es précipité,
bien.
Sacha.
La question est beaucoup trop longue.
Alex, plus malin, il aurait attendu, il aurait eu la bonne réponse. Alex, Steph Curry a partagé une partie de golf avec Barack Obama en 2015.
Oui.
C'est vrai, c'est un excellent golfeur. Et donc, Alex prend la tête dans ce quiz. Nous sommes sur la franchise des Warriors. Quel joueur dans l'histoire de la franchise est le meilleur marqueur en moyenne par match?
Chris Mullin?
Non.
Hardaway?
Non.
Mitch Richmond?
Non.
Chamberlain?
Wilt Chamberlain. Attention, Alex revient très fort. 3 à 1, est-ce qu'on a la réponse sur la question Tupac? C'est pour Sacha. Alors, je vous fais le point sur les scores. 3 points pour Alex, 2 points pour Sacha, 1 point pour Fred. Et je ne peux pas te demander chaque semaine si le surnom de LeBron James est King James.
Non.
T'as vraiment eu ça?
Ouais, mais il m'a volé sur James Bond aussi. Donc,
Alors, on reste sur Wilt Chamberlain. Vous allez me donner chacun votre tour, une estimation. Donc, quelle était justement sa moyenne de points avec les Warriors? Chacun votre tour, le plus proche de la bonne réponse remporte le point. Fred.
Moyenne en carrière avec les Warriors?
Non, avec les Warriors uniquement. Ouais. Hein.
38,3.
38,3. Sacha.
33.
33. Alex.
43.
43. La bonne réponse, et c'est assez hallucinant, hein. C'est 41,5, ouais. C'est donc de peu Alex le plus proche.
Il
va
pas faire beaucoup de saisons, c'est ça et...
Ah, mais c'est les saisons où je crois qu'il y a une saison où il est à 50 points de moyenne, un délire.
Quoi,
et 26 rebonds, un truc comme ça.
À notre temps, il était tellement dominant,
ouais, c'est ça.
Incroyable.
C'était sûr que c'était une dinguerie, sa moyenne.
On revient à 2023-2024. Sur les deux derniers matchs des Warriors, qui démarre au poste de shooting guard dans le 5?
Sur les deux derniers ?
Sur les deux derniers matchs, ouais.
Bah, Podziemski ?
Podziemski, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Brandin Podziemski, 19e de la dernière draft. Un petit mot sur ce joueur quand même, t'es vénère parce que t'en as parlé toi-même
oui,
tout à l'heure.
Oui, bien sûr, j'adore en plus ce joueur.
On adore. Joueur ouais. qui est mature, qui comprend vite le basket et qui apporte là où il faut apporter en temps voulu.
T'as réussi à nous réunir là, tous les trois on est d'accord sur Podziemski.
Le score, Alex 4 ouais. points, Sacha 3 points, Fred 1 point, on devine un joueur qui a passé 7 saisons aux Warriors de 2005 à 2012, drafté dans l'anonymat du second tour, gêné par une blessure au genou pour sa première saison.
Arenas.
Il a ensuite explosé et pendant 11 saisons affiché d'excellentes stats au shooting. 11 saisons au-dessus de 13 points par match, 9 saisons consécutives à plus de 17 points, que ce soit à Golden State, Milwaukee ou Dallas. Most Improved Player en 2007.
Monta Ellis.
Ouais, bien joué.
Monta Ellis, je vais vous dire qu'il a probablement fait la plus grosse erreur de sa carrière en 2009 en déclarant qu'il ne pouvait pas jouer aux côtés de Steph Curry. Et ensuite, quand la franchise a été rachetée, ils ont fait le choix de virer les anciens et de construire autour de
Steph. Avec Andrew Bogut quand même. Hein. Qui a tout changé.
Exactement. Donc Monta Ellis, c'est pour Fred qui revient. On ne sait jamais. 4-3-2, c'est le score. Une charade. Quand tu perds mon premier, c'est compliqué de rentrer chez toi. Mon deuxième... Qui est parti premier ?
Là, ouais, franchement, moi, on est très proche, mais...
Qui est parti premier ?
Moi, je pense que c'est moi.
Est-ce qu'on a le TMO ? TMO en régie ?
T'es quoi ? Fred est à deux.
Ah, on ne préfère pas se prononcer, on va faire appel à la VAR. Très bien. Moi, je pense que oui, c'est peut-être Sacha qui est parti en premier.
Mais j'ai cru qu'on partait sur Kelena Azubuike.
Kelena Azubuike, oui.
Ouais.
Alors, oh, un vrai ou faux sur Steph Curry.
Mais c'est une boucle, finalement.
Je veux vraiment être dans la tête de Pierrot quand tu prépares les quiz le mardi matin. C'est un grand bordel.
Vrai ou faux sur Steph Curry, Fred, sa maman, lui colle une amende de $100 à chaque balle perdue au-delà de 3 dans un match. C'est-à-dire à la quatrième balle perdue, c'est 100 € d'amende de la maman à chaque fois.
C'est
vrai ou faux ?
C'est faux.
Selon le San Francisco Chronicle, c'est vrai.
Alors, c'est son papa plutôt qui lui donnait les conseils de basket plutôt que la maman.
Eh bien, écoute, il est mis à l'amende
la
par
maman,
sa maman.
Elle prend
ouais, c'est ça, elle prend l'argent.
Ouais, elle doit faire un paquet de pognon quand même. Hein. Sacha, à 59 ans, son père, Del Curry, shoot 100 tirs à 3 points tous les matins sur le panier installé à l'arrière de la maison. Oui, mais c'est faux ça, c'est encore moi qui l'ai inventé.
Il pourrait.
Et enfin, Alex, son idole de jeunesse, c'est Nate Robinson.
Non,
c'est Muggsy Bogues. Bravo Alex, tu as 5 points.
Tu veux, j'en ai une aussi.
Tu as gagné le quiz,
sa
Alex.
Sa femme le privait de sexe si il mettait pas tant de points par match. Elle l'avait révélé dans une émission américaine.
T'imagines le mec, il perd des ballons et
eh ben, écoute, il doit pas s'ennuyer points, souvent à la maison.
Tu te rends compte à quel point c'est devenu un joueur incroyable.
Ah, le mec a décidé.
Alors
là-bas, ouais,
c'est Fred. Bravo Fred, mais c'est quand même Alex qui remporte ce quiz. Bravo Alex, à la semaine prochaine.
Bravo.
Salut.
RMC Basket Time.